Ouais, mais c'est pas toi qui décide.
Depuis que nos ancêtres préhistoriques ont compris qu'un fruit fermenté pouvait non seulement se manger, mais aussi rendre les réunions de la tribu beaucoup plus joyeuses, l'alcool n'a cessé d'accompagner l'humanité. Tour à tour, élixir des dieux, boisson de célébration ou cause de lendemain difficile, depuis la révolution néolithique, depuis que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont découvert l'effet de ces fruits fermentés et l'apparition dès moins 7000 en Chine de restes de boissons fermentées à base de miel, ou encore les premières traces de production de vin apparaissant dans les montagnes du Caucase en moins 6000, ces nectars euphorisants nous ont accompagnés jusqu'à nos jours. Ici Thomas Burkhardt, et je serai, comme à mon habitude, accompagné de ce très cher Thierry Warnet.
Bonjour.
Et comme vous l'avez compris, nous allons pour cette fois vous parler de l'histoire de l'alcool, n'est-ce pas Thierry?
Exactement. Et commençons par le commencement, en Égypte antique. Notez que je dis ici le commencement, car si on parle de fabriquer de l'alcool, les anciens Égyptiens, pour être plus précis, étaient des professionnels. La plus vieille brasserie du monde a notamment été retrouvée en 2021 à Abydos, datant des années moins 3100, donc juste après l'invention de l'écriture, on avait nos priorités. Mais que buvait-on alors en Égypte antique? Eh bien, de la bière, ça me paraît pas étonnant, en effet, c'est un petit peu l'élément fondateur de toutes les sociétés occidentales. Mais aussi, de manière un petit peu plus insolite, du vin, on n'y pense pas forcément au vin, donc voilà. Celui-là n'avait pas grand-chose à voir, cependant, avec celui de nos jours, servant notamment à y infuser des plantes pour en faire un remède thérapeutique, ou encore pour s'en servir dans des rituels funéraires. Par exemple, Osiris, dieu des morts, était aussi le dieu des banquets et du vin. En gros, on l'utilisait un petit peu comme le vin chaud. Actuellement, voilà, en y faisant infuser des choses et en y mettant des épices, chose qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans l'histoire, on va le voir. Mais autre boisson à l'origine divine, et pour le coup, là on parle vraiment de la boisson des dieux, c'est la bière en Égypte antique, créée de manière mythologique par Osiris. Il aurait laissé du houblon, de l'orge et tout ça fermenter, et pouf, ça aurait fait de la bière. Celle-ci sert aussi de manière thérapeutique en cas de maladie. La place de la bière au sein de la société égyptienne est assez centrale, comme nous le prouve une gravure sur pierre d'il y a 3250 ans environ, donnant des excuses d'absence d'ouvriers égyptiens. Dans celle-ci, on peut notamment lire qu'un des ouvriers manque à son poste car il est en train de brasser sa bière. Cette plaque a par ailleurs d'autres inscriptions assez intéressantes et assez humoristiques, comme par exemple le fait que un ouvrier n'ait pas été à son travail car il a été, et je cite, « mordu par un scorpion », ou un autre qui, et je cite, « embaume sa mère ». L'excuse du brassage de bière n'est cependant pas si fantasque. En effet, Denwell Samuel, historien spécialisé, égyptologue, soutient la thèse qu'un membre d'une communauté était désigné pour brasser de la bière pour le reste donc de cette communauté de manière saisonnière, permettant ainsi d'être au centre de la communauté, la bière étant un centre de la société, comme j'ai dit, boisson divine. D'ailleurs, c'est assez intéressant par rapport au vin et à la bière, on a des représentations assez, assez anciennes de brasseurs de bière, tout d'abord en sculpture, mais aussi dans les portraits du Sinaï, les plus vieux portraits peints de l'histoire, qui datent donc du 1er siècle avant et 1er siècle après Jésus-Christ, on a la représentation d'un jeune Égyptien barbu avec du pain et du vin.
Et donc, Thiao, là où en Égypte, on boit de la bière pour diverses raisons, comme vous venez de nous le démontrer, dans le monde latin, les choses sont différentes. Cela n'échappe à personne. Si je vous parle de Rome, beaucoup pensent à César, au Sénat et à ces repas que les Romains prenaient sur leur divan, consommant fromage, raisin et vin. Bon, je vais vous casser un peu le mythe, hein, parce qu'il s'agit là donc de repas clichés qui, de plus, étaient réservés à une élite. Car, bon, je vous l'avoue, le pécor de base, hein, l'artisan ouvrier, bien que citoyen, ne profitait pas de ce genre de repas. Quoi qu'il en soit, l'importance du vin est quand même apparue à Rome, comme beaucoup de choses, par l'influence et la récupération de la culture grecque. En effet, lorsque ces derniers s'installent dans le sud de l'Italie, hein, ils apportent avec eux leurs cépages et leurs techniques de viticulture. Avant d'aller plus loin, je vais sûrement vous décevoir encore une fois, mais non, les Romains ne terminaient pas sous la table à tous les repas. Ces derniers coupaient en effet leur vin à l'eau, puisque la boire pure n'était qu'une pratique barbare.
D'ailleurs, si vous voulez avoir une idée de ce à quoi ressemblait le vin pur de l'époque, buvez une bouteille de villageoise.
Oui, donc pas avec de l'eau quand même.
Oh.
Ou buvez du vinaigre directement.
Ça fonctionne aussi, c'est un synonyme.
Et donc, D'ailleurs, ce vin, comme vous venez de le dire, Thiao, c'est aussi un marqueur social. Hein. Plus on s'élevait, plus le vin grimpait en qualité. Issu donc de la première ou de la dernière pressée lors des vendanges et arrangé à coups d'épices et de miel, donc le fameux hypocras, comme vous l'avez dit, hein, quelque chose qui reprenne assez vite des Égyptiens. C'était aussi un moyen pour les empereurs d'apaiser le peuple. À l'instar de la maxime du pain et des jeux, les empereurs distribuaient aussi souvent de façon publique du vin, histoire de apaiser les tensions et ramener le peuple dans la maison. Et donc, ce vin, il est aussi consommé chez les Romains dans l'armée pour éviter la consommation d'eau insalubre. Oula, pardon. Et c'était aussi quelque chose d'assez central dans la religion romaine. Certains cultes, comme celui de Bacchus, hein, le Dionysos romain, si je puis me permettre la comparaison, durant les bacchanales, avec une consommation de vin assez excessive, ou ne serait-ce que dans d'autres rites où on versait quelques gouttes de vin au sol pour honorer les dieux.
Exactement, d'ailleurs. Une petite chose sur Dionysos. Le Dionysos qu'on se représente, en fait, c'est un autre dieu.
Oui, tout à fait. Le vrai Dionysos, c'est plutôt fin. Il n'est pas corpulent.
Justement. Voilà. Mais du coup, on fait un petit saut dans le temps et on arrive au Moyen-Âge. Et c'est là où se développe une véritable industrie de la brasserie. Tout d'abord, elle se développe dans le monde monastique. Pour les trois du fond qui ne sauraient pas ce que c'est le monde des moines. Et donc, à partir du VIe siècle, on a une règle de vie des moines, qui est la règle de Saint-Benoît, qui est écrite. Et donc, pour certains de nos auditeurs, ça fait peut-être sonner l'oreille, parce que c'est cette règle-là qui forme les moines bénédictins, en fait. C'est autour de elle que les moines bénédictins se forment.
C'est celle qui se répand d'ailleurs le plus au Moyen-Âge.
Exactement. Et bien, cette règle, elle dit que les moines doivent accueillir les passants et voyageurs cherchant logis dans leur monastère. Ainsi, dès le roi mérovingien Dagobert Ier, fils de Clotaire II, et son don de l'abbaye de Saint-Denis au 7e siècle, les moines commencent à produire de la cervoise pour les pèlerins et voyageurs s'arrêtant dans leur couvent. Cette production fut améliorée après le don par Pépin le Bref, père de Charlemagne, en 768, d'une houblonnière pour l'abbaye de Saint-Denis. La production monastique de bière est cependant éclipsée à partir du 9e siècle, plus particulièrement du concile d'Aix-la-Chapelle en 816, sous l'empereur Louis le Pieux, le fils de Charlemagne, quand de grands domaines sont donnés aux abbayes et aux évêchés afin de cultiver les vignes. Les grands domaines viticoles commencent alors à apparaître, comme par exemple dans les Flandres. Ainsi, la bière s'efface peu à peu au profit du vin, utilisé notamment pour le rite de l'Eucharistie, le vin représentant le sang du Christ. Normal, le vin, c'est rouge, donc on va plus l'utiliser pour le sang du Christ. La bière, c'est jaune, on a moins envie de la boire.
Oh, quoique.
Après quelques verres de sang du Christ, peut-être que, quoi qu'il en soit... la bière reprend de l'importance à partir du XIe siècle. Dans les abbayes de Bavière et d'Alsace, évidemment ça ne pouvait être que là, le premier laïc qui devient brassier de métier, apparaissant en 1260 en Alsace. Évidemment, là où il y a un métier, il y a de l'argent, le pouvoir s'en intéresse, l'autorité commence alors à se mêler du commerce de la bière. Saint-Louis reconnaît en 1268 la corporation des brasseurs de Paris. Charles VII, au milieu du XVe siècle, fait appliquer un décret sur la réglementation du commerce de cervoise dans le royaume de France, et le duc Guillaume IV de Bavière, décidément c'est bavarois, met des contrôles qualité sur la bière à partir de 1516. Chose marrante, ces contrôles qualité, ils ont duré jusque dans les années 1860 avec Otto von Bismarck. Donc ça a duré extrêmement longtemps, ce contrôle qualité précis sur la clarté de la bière. La bière et le vin, représentant la plupart des alcools du Moyen-Âge, sont donc une affaire de religion et de pouvoir. Mais même si... Oula, désolé. Même si la fin de la période voit tout de même des brasseurs et vignerons laïcs se développer, donc comme dit précédemment en Alsace, mais aussi la région de Bordeaux, qui au Xe siècle s'éclipse peu à peu de tout le pouvoir ecclésiastique et monastique et devient juste un endroit de vignerons laïcs.
Oui, d'ailleurs, à la même période, Thiao, il y a aussi le champagne qui se développe.
C'est ça, tout à fait, dans la région de Champagne, dans la Côte d'Or.
Ah bon?
Première nouvelle.
Le Moyen-Âge connaît aussi plusieurs techniques dans les domaines de la distillation et de la fermentation qui étaient pourtant connues bien avant le Moyen-Âge. C'est bien cette période, que leur usage s'est perfectionné et généralisé, donnant naissance à des breuvages qui marqueront l'histoire. Héritiers des Arabes et de leurs alambics, assez ironiquement, les Européens commencent à produire des eaux de vie, d'abord utilisées comme remède avant de devenir des boissons à part entière. C'est ainsi que Louise Beata, pardonnez mon accent écossais qui est sans doute accouché dehors,
oui.
Mais bon, il s'agit là de l'ancêtre du whisky, qui donc voit le jour en Écosse et en Irlande, tandis qu'en Hollande, on distille déjà les premiers brandies dès le XVe siècle. D'ailleurs, c'est assez intéressant, dans un rapport, je crois, au roi d'Angleterre, beaucoup de Néerlandais étaient justement accusés de boire trop de brandy dans les ports anglais, ce qui causait d'ailleurs des troubles assez inquiétants. Et donc, en France, en plein cœur de ces vignobles, le vin, et donc l'hypocrase, mêlé d'épices et de miel, devient la coqueluche des banquets aristocratiques, un peu à la manière d'un empire romain renaissant plutôt. Et pour ce qui est Attends. J'arrive pas à dire ça. Et pour ce putain, waouh. Et donc, et pour ceux qui préfèrent les saveurs plus douces, le cidre et son cousin le poiré se développent en Normandie et en Bretagne, bon un peu plus en Bretagne, hein, si je puis me permettre une prise de position assez régionale, va-t-on dire. Et donc, tandis que l'hydromel, la boisson ancestrale des guerriers du Nord, continue d'être prisée dans les cours royales. Pendant ce temps, en Orient, si le vin reste une boisson prisée à Constantinople, notamment lors de grands banquets impériaux, l'essor de l'islam après la chute de l'Empire romain d'Orient en 1453 change la donne. L'alcool, bien que toléré dans certaines sphères que sont les minorités religieuses, deviennent moins centrales dans la culture musulmane, donnant naissance à des boissons alternatives comme le charbat et le kamar al-adin, qui sont donc des jus de fruits, hein, notamment très tournés autour de l'orange, tandis que la distillation est davantage employée pour la parfumerie. Bref, du cloître aux tavernes, des champs aux palais, l'alcool se raffine et se diversifie et s'intègre encore davantage aux usages sociaux jusqu'à devenir bien plus tard l'un des piliers de la culture européenne.
D'ailleurs, en parlant du monde musulman, le mot qui nous intéresse ici, le mot alcool, vient du monde musulman époque-là.
Assez ironiquement, encore une fois. Hein.
C'est ça. Mais moi, je vais vous amener faire un grand, très grand bond en avant. Et je ne parle pas ici de Chine des années 50, mais bel et bien de la fin du 19e siècle, plus particulièrement en Occident et en Amérique. Dès 1855, certains États des États-Unis, comme le Maine par exemple, empêchent complètement la vente et la consommation d'alcool, créant ainsi des « dry states », avec mon bon accent, des États secs. Cette décision ne vient pas de nulle part, elle prend notamment source dans les mouvements de conservateurs et de féministes, ce qui paraît ironique, les uns voyant en les personnes qui boivent de l'alcool une décadence de la société, et les femmes en ayant marre de voir leur mari rentrer complètement sous, et le plus souvent, malheureusement, violent. Cherchant donc à faire baisser le taux d'alcoolique dans la société. Alors, énormément consommatrice. Le gouvernement se met à bannir peu à peu l'alcool en général. Par exemple, le président Rutherford B. Hayes, président des USA de 1877 à 1881, bannit complètement l'alcool de la Maison Blanche durant son mandat.
Un peu comme Trump et son fameux bouton rouge avec son coca sans sucre.
C'est ça, c'est ça. Et ben là, on buvait des jus de fruits pendant les grands banquets à la Maison Blanche. Lourde ambiance. Le Volstead Act de 1919, émis par le cabinet administratif de Woodrow Wilson, alors président des États-Unis, bannit l'alcool et sa production à l'échelle nationale, c'est ce qu'on appelle la prohibition. Un vaste réseau de contrebande se met alors en place avec des groupes criminels, le plus connu étant la mafia de Chicago, dirigée par Scarface, le très fameux Alfonso Capone, Al Capone, mais aussi, par exemple, la mafia d'Atlantic City. L'alcool rentre ainsi en Amérique de manière illégale par Saint-Pierre-et-Miquelon, terre française au large du Canada. Alors j'évoque Saint-Pierre-et-Miquelon, il y en a plein d'autres, mais voilà. Permettant la formation de grandes fortunes dans toute l'Europe, par exemple. Si vous avez joué aux excellents jeux que sont les jeux mafia, notamment le premier, oui. On est en pleine prohibition, ça parle de ça. Voilà. Pareillement, Peaky Blinders, les dernières saisons, tout à fait, parle de comment ils font fortune. Sans spoil, évidemment. Par rapport justement à la prohibition et au commerce d'alcool. L'agnol se fait aussi produire se produit aussi de manière illégale dans des alambics, on va en reparler, de campagne. Et ça depuis la fin du 19e siècle dans les dry states justement. Produisant ainsi ce qu'on appelle du torboyau, extrêmement dangereux mais extrêmement consommé dans les campagnes américaines. Les villes des années folles, quant à elles, s'approvisionnent en alcool par la contrebande. Tout ce qu'on a parlé, les réseaux et tout ça, d'ailleurs les bars sont un peu cachés, souvent en sous-sol avec de la grosse musique.
Oui, les fameux tripots clandestins.
C'est ça. Bref, le rêve. La prohibition est levée par Franklin Delano Roosevelt en 1933, dès son arrivée au pouvoir, avec sa politique du New Deal et de relance économique de l'Amérique.
Cependant, si je puis me permettre, revenons un peu en arrière. Bien que les femmes en buvaient également, il était mal vu pour elles de finir enivrées. Et avec l'amélioration de l'hygiène, elles sont très rapidement passées à l'eau. En dehors des exceptions, évidemment. De la sorte, si l'alcool a longtemps été l'apanage des hommes, symbole de virilité et de sociabilité dans les banquets antiques et médiévaux, la donne commence à changer à mesure que la société évolue. À la Renaissance, et surtout à l'époque moderne, la féminisation de l'alcool s'amplifie. Les salons mondains voient apparaître des dames dégustant des liqueurs fines et les apéritifs sucrés, comme le madère ou le vermouth, qui deviennent très prisés par la haute société féminine. Cependant, si l'alcool se démocratise auprès des femmes, il ne tarde pas non plus à inquiéter les médecins et les moralistes. Évidemment, dès que les femmes s'emparent de quelque chose, il y a toujours un bon moraliste pour venir le condamner. Et donc, dès le XVIIIe siècle, on commence à observer les effets néfastes de l'alcoolisme, notamment chez les plus pauvres, qui s'adonnent à l'eau de vie bon marché, déclenchant de premières tentatives de régulation. Mais c'est au XIXe siècle, donc, avec l'essor de la médecine moderne, que l'on met véritablement un nom sur les ravages de l'alcool, avec des premiers termes qui commencent à apparaître, comme le délirium tremens, et l'on commence aussi à associer l'alcoolisme à une maladie plutôt qu'à un simple vice moral. Ainsi, l'alcool, autrefois perçu comme un simple plaisir et non un marqueur social, devient un enjeu de santé publique, ouvrant la voie au mouvement tempérantiste et aux premières législations contre l'abus de la boisson, comme vous nous l'avez dit, Thiao, avec la prohibition aux États-Unis.
Exactement, et en parlant de prohibition, on a eu aussi une période un petit peu de prohibition en France, pas aussi violente qu'aux États-Unis, avec moins évidemment d'arrêt et
on
tout ça.
On y était plus attaché.
C'est exactement. Bah d'ailleurs, la personne dont je vais parler, un certain Pierre Poujade, s'est levé contre lui en lui disant si vous étiez un vrai Gaulois, vous n'auriez pas fait ça. Bon.
Bon, Pierre Poujade.
Pierre Poujade, on le connaît, non? Voilà, figure assez controversée. Donc pour revenir dans cette période après-guerre, le gouvernement français mène aussi un combat contre l'alcoolisation de la société. Suivant les lignes politiques du gouvernement provisoire français, le GPRF, mise après la libération. Dans cette mouvance, le président du Conseil de 1954 à 1957, Pierre Mendès France, décide de mettre en place une politique d'assainissement de la société. La France des années 50 est en effet une des plus grosses consommatrices du monde à ce moment-là, avec en moyenne 21 litres d'alcool consommés par habitant par an, ce qui est beaucoup, et c'est encore plus quand on y pense, parce que 21 litres par habitant, c'est sur toute la population. Si on prend seulement les hommes adultes, on est sur du plus de 34 litres par homme adulte par an, ce qui est beaucoup trop, peut-être. Mendès France enlève ainsi la profession de bouilleur de cru, dont on va reparler plus tard, à plus d'un million de récoltants, permettant d'encadrer la production d'alcool et luttant contre les alambics, dont Thomas, donc, comme j'ai dit, nous parlera plus tard. Mendès prend aussi des décisions face à l'alcoolisme infantile, notamment en abrogeant la distribution de vin dans les cantines des écoles primaires. Donc cette abrogation, elle est mise en place dès 1956. Bon de noter que...
Oui, c'est du vin coupé à l'eau, c'est pas du...
Voilà, voilà. C'est, on va pas leur servir des bouteilles de villageoises entières. Tiens gamin, ça te fera les pieds. Et dans les lycées, la distribution d'alcool, quant à elle, est interdite bien plus tardivement, en 1981, sous François Mitterrand. Certains de vos parents, chers auditeurs, ou même peut-être vous, sait-on jamais, ont peut-être pu se la mettre à la cantine du lycée.
Eh bien, juste avant de poursuivre, venons-en vite fait aux alambics, hein, là où, donc, dans beaucoup de pays, il est simplement un outil de distillation, voire de contrebande. En France, il est au cœur d'une longue lutte entre tradition rurale et contrôle fiscal. Cela n'échappe à personne, hein. Si je vous parle d'alambic, beaucoup imaginent ces vieux paysans distillant leur eau de vie en cachette ou ces bouilleurs de cru qui, autrefois, transformaient les fruits en alcool sans trop se soucier des taxes. Bon, je casse un peu le mythe, hein. Car si cette pratique a longtemps perduré, elle a surtout été dans le collimateur des douanes, soucieuses de ne pas voir l'État prendre donc perdre une précieuse manne financière. Quoi qu'il en soit, la distillation a toujours été une affaire de réglementation. Napoléon Ier instaure des taxes strictes, le 19e siècle voit la montée des contrôles, et le 20e siècle marque la fin des privilèges des bouilleurs de cru, donc dans les années 1960.
C'est ça, sous Mendès France.
Exactement. Et donc, avant d'aller plus loin, je vais sûrement vous décevoir encore une fois, mais non, la France n'est plus le pays des alambics cachés sous la paille. Certes, il existe encore quelques irréductibles distillateurs clandestins, notamment en Corse ou en Auvergne, mais l'époque où l'on voyait les douaniers traquer les fumées suspectes au fond des bois est presque révolue. Pourtant, le souvenir des bouilleurs de cru, lui, reste bien vivant, et avec lui l'image d'une France où l'on transformait encore ses prunes en eau de vie, au fin fond du jardin, du café schnapps à 8h du matin, au fin fond de nos vallées montagneuses.
Mais ne vous en faites pas, la France est toujours bien consommatrice d'alcool aujourd'hui, consommée donc beaucoup dans la société, notamment dans le monde étudiant, où en 2021, le taux de jeunes de 17 ans, et seulement les jeunes de 17 ans, ayant bu de l'alcool mensuellement, est selon une étude de 44%.
Oui, d'ailleurs, point intéressant, il m'a semblé voir l'autre jour dans le Parisien, les étudiants boivent moins sur la durée, mais au lieu de juste moins consommer,
suis en fou rire, désolé.
Mais des grosses quilles.
Bref. Mais oui, du coup, il m'a semblé voir dans Le Parisien l'autre jour, les étudiants, donc, ont certes diminué leur consommation d'alcool, hein, qui était, je crois, de 70% en 2023. Mais alors, certes, ils ont diminué sur la durée, mais ils se mettent toujours plus de quilles, car... quand ils boivent plus et plus fort.
C'est ça. D'ailleurs, fait intéressant, j'ai trouvé ça aussi tout à l'heure, même étude du gouvernement français, les étudiants en troisième seulement, donc encore au collège, on est sur un taux de 30,4% de jeunes buvant mensuellement. Voilà.
Une future génération qui...
qui annonce des merveilles. On note, ceci dit, donc, comme dit par Thomas, une baisse de consommation générale d'alcool dans la société. Cependant, la vente de bière... est en hausse légère, là où celle de vin et de spiritueux est en chute libre. Pour le vin, ça peut notamment s'expliquer par les exécrables récoltes dans les domaines viticoles dues à l'emballement climatique, au réchauffement climatique et au fait que les saisons aient plus de sens.
Oui, et puis il y a tous ces nouveaux vins aussi, ces fameux Bordeaux de Californie.
Exact, ceux-là même.
Voilà, et donc c'est sur ces derniers chiffres que nous terminons cette émission. Nous tenons tout de même à vous rappeler qu'il faut boire avec modération. D'ailleurs, si vous le trouvez, n'hésitez pas à nous prévenir. En attendant, nous nous retrouvons d'ici 2 semaines pour parler du carnaval et de son histoire. Et en attendant, n'oubliez pas...
L'histoire, c'est vieux, c'est fin, ça se mange sans fin. Ah bon.